Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Sirgue, François-Louis-Marie et Jérôme Crapati. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, donc du football avec un retour sur la semaine de Ligue des Champions et le classique de la Ligue 1. Du rugby avec la dernière journée du tournoi Destination et le sacre de l'équipe de France et de la Formule 1 avec le premier Grand Prix de la saison en Australie. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. François-Louis-Marie, on va commencer par vous et cette semaine, cette belle semaine de football pour le football français avec la victoire et la qualification du PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un PSG qui a créé l'exploit, on peut le dire. On ne peut pas dire que cette fois-ci c'était un petit Liverpool comme on a dit que c'était un petit City qui a créé l'exploit à Liverpool et qui s'est qualifié.
City qui c'était pas un petit Liverpool, c'est pas un exploit, c'est que Paris était supérieur. Je pense que Paris a bien géré son match, un sur le plan athlétique. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils s'étaient effondrés. Je pensais qu'ils allaient s'effondrer sur le plan physique. Et aux prolongations, au contraire, ils en ont remis une couche. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que la gestion était mieux faite. Ensuite, ils ont moins de blessés que les années précédentes. Donc sur le plan athlétique, c'était bien géré. Et enfin, sur le plan tactique, on était tous un peu dubitatifs face à Enrique. Et on se rend compte qu'en fait, au bout de deux ans, il a réussi à créer un groupe, un esprit de groupe. Personne n'est titulaire. Il arrive à faire des changements à n'importe quel moment. Qui lui dit que Dembélé, en le faisant jouer 9,5, à droite, à gauche, serait actuellement le meilleur buteur. Et il a su gérer un effectif avec beaucoup de jeunes. Est-ce que si on donne cet effectif-là à Ancelotti, à Guardiola, est-ce qu'ils auraient été en capacité de faire la même chose? Ils ont une moyenne d'âge de 23-24 ans. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc exploit ou pas, moi je dis qu'il y a un travail qui est fait depuis deux ans. J'espère qu'ils vont le laisser travailler encore deux ou trois ans.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on va lui laisser le temps de travailler comme ce n'est pas toujours le cas dans ces très grands clubs?
Il a beaucoup de jeunes. Les clubs qui voudront acheter ces jeunes, je pense que des jeunes garçons comme Doué, comme Barcola, doivent être déjà 60-70 millions. Donc uniquement les clubs anglais peut-être pourront venir dessus. Alors qu'un effectif, par exemple, comme Marseille, je suis sûr qu'à la fin de la saison, ils vont encore en vendre 8 ou 9 et encore reconstruire. Alors que là, Enrique, il a quand même une bonne base s'il veut continuer.
Oui, puis il a des joueurs qui ont vraiment décidé de s'inscrire dans le projet à long terme. Pardon.
Il y a pratiquement tous sont dans le projet. Hein. Et à part Marquinhos, qui a son âge, Kimpembe, il faudra qu'il renouvelle un peu son axe central. Mais au milieu, en attaque, Ramos, qui est pour l'instant en avant-centre remplaçant, et il n'a que 24 ans, quoi. Ils n'ont pratiquement que des jeunes joueurs. Donc il a de quoi travailler, à charge pour les dirigeants maintenant de lui laisser le temps.
On sent un groupe très sain, très, très soudé, très solidaire aussi. On sent que les joueurs ont envie de faire les efforts les uns pour les autres.
Ça court plus qu'il y a trois ans. Hein. Quand Liverpool, bien, ils étaient au-dessus de 2 ou 3 kilomètres.
2 kilomètres à la mi-temps, 4 kilomètres à la fin.
Voilà, ils ont 2 ou 3 kilomètres supplémentaires par rapport à Liverpool. Alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, avec les Neymar, Messi et Mbappé, ils en avaient 2 ou 3 en moins. Donc là aussi, ça fait la différence et ça montre que là, ils ont tous envie de faire les efforts les uns pour les autres, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans.
Bon, l'homme de ce match, ça a été Gigio Donnarumma, qui a été très sévèrement critiqué après le match aller, où on a dit qu'il avait eu un seul arrêt à faire et il ne l'avait pas fait. Là, il a répondu aux critiques.
Tous les gardiens dans tous les clubs du monde, j'ai vu qu'ils font des erreurs. Ils font des erreurs. Et lui, on ne lui a pas tellement laissé le temps parce qu'on pense que Donnarumma a 30 ans. 34 ans, 35 ans. Il a quel âge ?
23 ans.
Il a 23 ans. Et il a été champion d'Europe et meilleur joueur du championnat d'Europe il y a 4 ans.
2021.
Ouais. Il a été meilleur joueur du championnat d'Europe. Donc, à peut-être 20 ans.
C'est ça.
Et là, il n'a que 24 ans. Donc, on ne lui a pas laissé le temps non plus. Et le poste de gardien de but, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, il est très, très, très sensible.
Voilà. Dembélé a aussi été très, très costaud. On a eu un grand Dembélé presque en renard des surfaces, assez inhabituel pour lui, pour marquer ce but.
Ah, tout à fait. Et moi, j'aurais aimé être une petite souris quand Enrique lui parle. Parce que Enrique a su mettre ce joueur-là en confiance. Il est passé un peu partout. C'est un bon joueur, hein, un bon dribbleur. Mais il a passé un cap. Il a passé un cap. Et qu'est-ce qu'il peut lui dire, un entraîneur, là il y en a du rugby, qu'est-ce qu'il peut lui dire pour remettre un joueur comme celui-là en confiance et qui est maintenant un meilleur buteur de la Ligue 1?
Alors il a passé un cap technique et dans son exploitation, mais il a aussi passé un cap physique, c'est-à-dire que c'était un joueur très souvent blessé. Aujourd'hui, on sent que c'est un rock presque.
Pour l'instant, il n'a pas été blessé, il est de tous les matchs. S'il ne joue pas, c'est parce que Henrique l'a mis sur le banc. Et là, il joue pratiquement tous les matchs. Alors, peut-être que son hygiène de vie a aussi peut-être changé. Hein. Mais si son hygiène de vie a changé, c'est peut-être que l'entraîneur a su lui parler. Ou voilà. Et puis maintenant, il a pris une place importante dans l'effectif. Il n'y a plus Mbappé. Il a toujours été à côté de grandes stars. Et là, il n'y a pas de grandes stars. Et donc, il peut laisser libre cours à sa créativité. Et maintenant, il est beaucoup plus adroit devant le but. Hein. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais d'autres clubs vont revenir à la charge, notamment les clubs anglais.
Prochain match contre Aston Villa, avec match retour à Villa Park, ça ne va pas non plus être une partie de plaisir. Il ne faut pas croire que le plus dur est fait.
Il faudra beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Et là encore, il faudra qu'Henrique puisse gérer son groupe. Parce que l'année dernière, je tiens à le rappeler, là aussi, on bat le Barça à Barcelone. On joue ensuite Dortmund. On pensait que tout était fait. Dortmund nous tape. Et là, à Aston Villa, ça va être la même chose. Hein. Il faudra être avec beaucoup d'humilité, parce qu'en face, il y a l'ancien entraîneur du PSG.
Unai Emery.
Il y a un gardien de but que je suis depuis longtemps qui arrive à faire déjouer à lui tout seul une équipe.
Ah, qui fait faire encore des cauchemars, notamment à Kolo Muani.
À Kolo Muani, finale de la Coupe du Monde.
Emiliano Martinez, pour le nommer.
Emiliano Martinez. Tu as aussi Asensio et tu as Digne. Donc
voilà, des anciens parisiens. Donc ben, on sait que les anciens parisiens aiment bien se montrer contre le PSG.
Ils font toujours mal au PSG, donc il faudra se méfier de cette équipe d'Aston Villa, surtout que le match retour se joue...
C'est ça, à Villa Park.
À Villa, donc il faudra être très 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 méfiant de cette équipe-là. Mais je fais confiance à Enrique qui laisse rien au hasard.
Bon, on a en revanche eu une déception avec Lille qu'on attendait mieux. On s'était dit que le plus dur était fait en allant chercher un match nul à Dortmund au match aller. Et finalement, ils ont plié à domicile, les Lillois. Est-ce qu'ils ont plié dans le jeu ou est-ce qu'ils ont plié sous l'enjeu?
Je pense qu'ils ont plié sous l'enjeu parce qu'ils ont quand même mené au score.
Très vite. Est-ce que le fait d'avoir mené trop vite, ça les a pas desservis?
Je pense qu'ils ont cru que c'était fait. Ils ont cru que c'était fait et non, un match se joue jusqu'à la fin. Et ils ont un peu relâché les traites et ils ont joué beaucoup plus bas. Je pense que s'ils avaient continué à jouer au moins médian et au plus haut, ou continué à effectuer leur pressing, ils auraient pu passer. Mais ils ont cru que c'était fait, ils ont commencé à jouer plus bas, ils ont commencé à douter et l'équipe d'en face n'a rien lâché.
Un petit mot sur les autres résultats rapidement de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions avec un Real Madrid qui s'en sort de justesse au tir au but là aussi contre l'Atlético.
Olivier, il faudra qu'on m'explique. Hein. Le Real, ça fait 10 ans à chaque fois qu'on dit ils vont pas passer, ils sont pas bons, et ils passent là encore au penalty. Donc ils ont l'habitude des grands rendez-vous, ils ont l'habitude d'appréhender tout cela. Ancelotti, il est malin et c'est un coach qui est très roublard. Hein. C'est pas l'entraîneur comme on dit. Qui est sur le terrain à faire beaucoup d'exercices. Non, il est là, il connaît ses joueurs par cœur. Ils ont des dirigeants pareils qui connaissent leurs joueurs. Là encore, il passe au pénalty à Rudiger. Ça fait la deuxième fois qu'il tire à la fin. Tu regardes le pénalty de Rudiger, c'est pas le pénalty le plus technique au monde. Hein. Excuse-moi, mais.
Non, il a mis. Contrairement à Vinicius pendant le match, lui, il l'a mise.
Ben oui. Lui, il frappe, mais. Enfin, il a un mental, ce joueur, il a un mental qui est tel qu'il va frapper, il n'a pas peur, donc il la frappe. Ça rentre, tant mieux pour le Real, mais bon, le Real, c'est pas non plus un foudre de guerre hein, pour l'instant.
Mais il faut se méfier, plus le Real avance dans la compétition, plus il est fort.
Ça sera la demi-finale, hein. Et en demi-finale et en finale, le Real souvent est imbattable.
Bon, on suivra ça donc la semaine du 8 et 9 avril pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions et les matchs retour la semaine suivante. Un petit mot sur la 26e journée de Ligue 1 pour terminer cette page football. Le PSG a gagné le classique ce matin, 3-1 contre Marseille.
Ça ne me surprend pas. Je ne suis pas un pur parisien, je suis parfois un peu du sud, mais ça ne me surprend pas. Le Paris Saint-Germain était au-dessus. Ce qui me surprend, c'est que Enrique a pratiquement aligné les mêmes joueurs qui ont joué mardi ou mercredi. Et il passe.
Très peu de turnover sur cette
très
journée.
Très peu de turnover. Donc, il n'a pas pris ce match-là à la légère. Hein, alors que Liverpool, qui a joué leur finale de Carabao
de la League Cup
dans la nuit, là, voilà. Se sont ramassés. Et là, Paris ne se ramasse pas. Paris passe. contre Marseille, qui a fait un bon match aussi. Hein. À 2-1, ils auraient pu revenir. Donc là encore, il y a une bonne gestion de l'effectif, il y a une bonne gestion du côté athlétique. Parce que j'aurais bien aimé là aussi savoir leur staff médical, parce qu'il y a très peu de blessés, ils arrivent à ne pas faire de turnover, à pratiquement mettre les mêmes joueurs, ils arrivent à passer. Ils arrivent à passer contre Marseille, qui est quand même deuxième du championnat, hein. C'est pas n'importe qui. Hein.
Alors, qui conserve sa deuxième place d'ailleurs, puisque derrière les poursuivants piétinent un peu, Nice n'a pas fait mieux que match nul face à Auxerre à domicile. Monaco s'est repris un peu par rapport aux dernières journées en allant gagner à Angers 2-0. Il se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, troisième à égalité, donc Nice et Monaco à 47 points, à 2 points de Marseille. Et on va parler un petit peu du bas du tableau où on a un match qui a été arrêté, le Montpellier-Saint-Etienne. Un petit mot sur ça. Donc arrêté à la 63e minute pour des raisons de sécurité, puisque les supporters montpelliérains ont commencé à mettre le feu aux tribunes.
Ce ne sont pas les Montpellier qui sont coutumiers du fait. Hein. Beaucoup d'équipes de la Ligue 1, quand ils commencent à jouer le bas du tableau, les supporters commencent à s'en prendre à leurs joueurs. Et ça, c'est navrant et désolant pour le foot. Hein. Et c'est là où le rugby a des points sur nous. On a encore un gros travail à faire au niveau de la mentalité, de l'état d'esprit. Hein, parce que chaque fois, là, c'est Montpellier, mais ça a été d'autres équipes. Ça a été Lyon, quand ils étaient derniers. Les supporters envahissent le terrain. Je pense que si Montpellier est là où ils sont, c'est parce qu'il y a un travail qui n'est pas fait. Et on se posait la question, nous, en ce moment, sur la formation. Avant, la formation française des entraîneurs était la première. Ça veut dire qu'au niveau de la Ligue 1, tu avais beaucoup d'entraîneurs français. Des entraîneurs français qui s'expatriaient sur le championnat anglais, sur le championnat allemand. Maintenant, tu regardes Paris, Monaco, Marseille, ce sont des entraîneurs étrangers, et tu as beaucoup moins d'entraîneurs français sur les championnats majeurs européens. Donc, on devrait se poser un certain nombre de questions.
Et les clubs français passent leur temps aussi à s'échanger les entraîneurs. On voit toujours les mêmes têtes. Là, Montpellier, c'est Passy. Avant, c'était Der Zakarian, etc. Ça fait 10 fois qu'on les voit dans 10 clubs différents. Ça marche jamais là où ils passent. Mais on continue à revoir les mêmes, à croire qu'il n'y a pas de relève derrière.
Il faut qu'on se pose les bonnes questions en termes de formation et la relève des entraîneurs français. Alors qu'avant, on était dans les meilleurs formateurs d'entraîneurs au monde.
Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est lié à l'équipe de France, puisque l'équipe de France a été championne du monde en 2018, finaliste en 2022. Donc le football français se porte plutôt bien au niveau international.
Parce que Deschamps a une façon de fonctionner. Et en plus, lui, on lui a fait confiance pendant toutes ces années. Hein. Sinon, ça aurait fait un turnover. Hein. Deschamps lui a fait confiance. Il a pu mettre quelque chose en place sur toutes ces années. Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions sur la relève des entraîneurs français.
Bon, eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt dans les semaines à venir. Avec, pour terminer cette page football, le PSG qui pourrait être champion dès la prochaine journée. Alors, il faut 3 conditions, que Marseille ne batte pas Reims, que Nice et Monaco qui s'affrontent fassent match nul. Voilà. Et que le PSG s'impose à Saint-Etienne, bien évidemment.
Ah, s'ils ne sont pas champions lors de la prochaine journée, voilà. Ils le seront
19 points d'avance aujourd'hui, donc effectivement le titre de champion est joué, mais il reste plus qu'à savoir quand. Et l'idéal pour Paris serait de valider ce ticket avant les matchs de Ligue des Champions contre Aston Villa pour être totalement libéré. Ou est-ce que ça peut les démobiliser?
Non, ça ne va pas les démobiliser. Enrique, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Hein. Il n'est pas là à faire des calculs politiciens. Il est clair dans sa tête. Lui, il veut tout gagner. Et il veut gagner tous les matchs. Et surtout, là, il a un challenge, c'est de finir invaincu. Donc, je ne pense pas qu'il va faire l'impasse sur les matchs. Il va continuer comme il le fait d'habitude. Hein. Et si tu as 3 championnats où les premiers sont largement en tête, c'est en Allemagne avec le Bayern. C'est Liverpool avec l'Angleterre et la France. L'Italie et l'Espagne, c'est très serré. Très, très serré.
Bon, merci à vous. On va passer au rugby. Jérôme Crapati avec vous. C'était la dernière journée du tournoi Destination. Une journée qu'on attendait avec impatience depuis la semaine dernière et la victoire en Irlande. On n'a pas été déçus. On a eu peur un petit peu par moment. Mais voilà, l'équipe de France a fait le boulot. 35-16 contre l'Écosse pour remporter ce tournoi devant l'Angleterre et l'Irlande. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match d'abord ?
Fabien Galthié avait l'ambition d'amener l'équipe de France au plus haut. Alors certes, ne pas remporter le Grand Chelem, mais remporter le titre. Et c'est ce qui a été fait. Donc la mission a été remplie. On se rend compte que cette équipe de France, elle était humble avant le match, puisqu'elle devait faire preuve de vigilance après sa déconvenue donc en Angleterre. Et surtout, le chef-d'œuvre qu'elle nous a servi contre l'Irlande. Contre l'Irlande, elle a fait un match parfait, donc elle était en confiance, avec certes la perte d'Antoine Dupont, mais la montée en puissance d'un garçon donc, comme Maxime Lucu, qui avait fait un très très bon match donc, contre l'Irlande et qui a vraiment confirmé contre l'Écosse. L'Écosse, il ne fallait pas minimiser l'équipe, puisque c'est une équipe qui est très offensive, et l'équipe de France va balbutier son rubis en première mi-temps, va pas être avec des bonnes marques, et va rater 19 plaquages, et va aussi donc ne pas être vraiment, on va dire, précise sur la partie du rideau défensif. Ce qui fait que les Écossais ont joué un petit peu leur va-tout, et on va arriver à la mi-temps avec beaucoup de chance, avec un 16-13, mais aussi un essai refusé de la part donc des Écossais, et un carton jaune qui aurait pu se transformer en carton rouge. Donc finalement, ça passe...
Qui aurait pu ou qui aurait dû ?
On va dire peut-être qui aurait pu, parce que le coup de tête est en bas de du menton, il n'est pas complètement au niveau du faciès. Donc après, les arbitres ont été quand même assez... je pense qu'ils sont compétents avec la vidéo, et ils savent ce qu'ils font. Ensuite, on s'est rendu compte également que Fabien Galthié, je pense, a dû dire ce qu'il pensait à la mi-temps. Je pense que tout le monde a dû être recadré. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, on a un Yoram Moefana qui avait déjà marqué en première mi-temps, qui a brillé à nouveau. Un Biel Béharé qui est le renouveau du rugby français, qui, je le rappelle, marque 8 essais dans ce tournoi.
Qui égale le record donc, du tournoi.
Oui, qui marque donc, en 19 rencontres 18 essais. Et l'équipe de France, sur l'ensemble donc, du tournoi, va marquer 30 essais.
Ça, c'est le nouveau record pour le coup.
Donc une équipe très, très offensive. Et quand on est offensif, ça veut dire qu'on maîtrise les fondamentaux. Et les fondamentaux, ça a été une conquête retrouvée. Un pack de 932 kilos, toujours puissant. Et une capacité surtout à être fort dans justement la rigueur sur la deuxième mi-temps, et ils sont passés devant. On s'est rendu compte aussi que Fabien Galthié n'avait pas du tout prévu ce scénario. Ça a été un scénario qui a été un petit peu inattendu. Il ne pensait pas être vraiment un peu chamboulé. Et finalement, grâce à une synergie et une bonne cohésion de l'équipe, ils finissent ce match avec une très très belle victoire. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'il y avait parfois des détracteurs. Et là, on a vu que cette équipe de France, elle est allée jusqu'au bout. Elle a gagné donc 4 matchs. Elle en a perdu un d'un point. Et elle est vraiment montée en puissance. Et ça, il faut quand même le reconnaître avec un Thomas Ramos qui marque encore 20 points. Et donc une copie qui est quand même assez sérieuse avant une tournée au mois de juin et une autre tournée encore au mois de novembre.
Alors c'est d'autant plus important et impressionnant que cette victoire dans le tournoi, elle a lieu une année impair. Donc on sait que les années impaires, on se déplace 3 fois. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné en année impair, donc c'est aussi de bon augure pour la suite.
Oui, et Olivier, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut voir aussi le nombre de points marqués, plus de 40 points au Pays de Galles, plus de 40 points aux Irlandais, 70 points aux Italiens, 25 points donc contre les... Voilà, donc il y a une machine offensive qui s'est mise en place et qu'on ne trouvait pas dans certains autres tournois. Et cette équipe de France, je pense qu'elle a repris le moral depuis sa défaite au niveau de la Coupe du Monde, et je trouve que le système qui a été tenté, parce qu'il y a quand même de l'analyse en profondeur au niveau de tout ce qui est fait par le staff de Galthié, c'est de dire que s'il y a une profondeur de banc, c'est-à-dire qu'il y a des impact players qui rentrent au bon moment, eh bien on voit bien que le 7 avant et 1 3 quarts est en train de payer et déstabilise l'équipe adverse, puisque vous regarderez, Olivier, les points se sont marqués surtout de la 45e minute à la 60e, où là l'équipe de France fait basculer le match.
Exactement, c'est le moment où l'équipe de France a toujours des temps forts. Et elle exploite ses temps forts en marquant systématiquement.
Oui. Et un état d'esprit que j'ai trouvé intéressant, c'est Antoine Dupont qui reste à Marcoussis avec l'équipe toute la semaine, qui soulève le trophée. À la fin, Gaël Ficou qui va offrir sa médaille à Louis Barassi, donc Pierre-Louis Barassi qui était blessé. Donc voilà, il y a toujours ces valeurs de l'équipe de France et du rugby qui sont à noter, et même dans le haut niveau, eh bien, ces valeurs, elles sont préservées. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que les 78 000 spectateurs étaient vraiment derrière cette équipe de France. Et c'était vraiment une très belle fête avec les moins de 20 ans qui avaient gagné également auparavant.
Dans l'après-midi.
Et voilà, donc c'est le rugby qui sort gagnant de ce tournoi.
On a vu une belle image, c'est celle d'Antoine Dupont attendu par ses camarades sur le podium pour soulever ce trophée avec ses béquilles. Voilà, image à la fois émouvante et belle de solidarité.
Oui. Sportifs de haut niveau qui seront les croisés, c'est dramatique parce que c'est beaucoup de temps. Donc déjà, il y a l'opération, il y a la rééducation, il faut revenir au plus haut niveau. Et ce garçon, on ne le présente plus. Et là, finalement, ses copains, ses camarades, ils lui font une belle surprise en le mettant en avant et ils soulèvent en premier le trophée. Donc c'est une image très symbolique, mais ça représente vraiment le rugby français.
Vous l'avez un peu évoqué, quelles sont les prochaines étapes là, pour ce 15 de France ?
Ils vont jouer l'Angleterre le 21 juin, ils vont jouer la Nouvelle-Zélande ensuite, et enfin ils vont faire une tournée au mois de novembre contre l'Afrique du Sud, Fidji, donc voilà, donc des équipes de haut calibre. Donc ça veut dire que les joueurs vont repartir dans le top 14, un top 14 qui est entre parenthèses presque le meilleur championnat du monde, avec des grands joueurs. Et donc là, il faudra préserver les joueurs, travailler sur la liste des 42, et pourquoi pas lancer des nouvelles pépites. Fabien Galthié n'hésite pas à lancer des jeunes joueurs, et moi je trouve que cette émulation, moi je la trouve saine. Pourquoi ? Parce qu'elle elle met en valeur donc, des joueurs qui travaillent dans les clubs et qui performent en équipe de France. Et quand on pense que Galthié veut amener cette équipe de France au plus haut niveau, c'est peut-être se dire que cette prochaine Coupe du Monde, il pourrait être vraiment au rendez-vous avec une nouvelle ossature et une équipe de France qui est rajeunie et qui est reboostée.
Eh bien, on l'espère. On sait que tous les postes sont presque doublés, voire triplés. Donc, on espère que cette équipe va pouvoir performer à la prochaine Coupe du Monde. Grégory,
c'est le dispositif aussi des GIF qui permet à chaque club de former des jeunes et de les apporter au plus haut niveau, qui commence à payer puisque Galthié a presque des problèmes de riches. On le disait, tous les postes sont triplés au moins.
Alors, il va falloir éclairer nos auditeurs sur ce qu'est un GIF.
C'est j'ai pas l'acronyme exact.
Un joueur formé au club.
Voilà, formé au club.
Un jeune joueur formé au club
qui est plus ou moins préservé et drivé par le staff de l'équipe de France pour ensuite l'amener au plus haut niveau.
Voilà, et bien on va suivre cette actualité rugby dans les semaines à venir, et on espère et on souhaite un bon rétablissement à Antoine Dupont. On va passer maintenant à la Formule 1. C'est reparti pour une saison, Grégory Sirgue. Et vos pronostics s'avèrent justes pour l'instant, puisque Lando Norris a remporté cette première course un peu folle dans des conditions climatiques plus que difficiles.
C'était une course assez dantesque. On parlait juste avant de rugby et de football. Pour faire un parallèle, là, l'homme du match, c'était la pluie. ça a vraiment été le facteur X aussi bien...
Ça aurait pu être la safety car. Hein.
Ça aurait pu être la safety car qui est la voiture qui a fait le plus de tours en tête. Mais... Non, c'était assez intéressant. C'était un peu compliqué pour les rookies, par contre, de commencer dans ces conditions. Tant en qualif qu'en course après, il y avait notamment le circuit, pour ceux qui ont de la mémoire, qui avant avait des bandes jaunes le long du circuit, qui là était peinte en blanche. Donc on a une couche de peinture sur le rebord, ce qui fait que dès que les pneus vont dessus et qu'il pleut, c'est l'aquaplaning instantané.
On l'a vu, et c'est ce qui a coûté plusieurs. Voilà, la sortie de route d'Adjar par exemple.
C'est ça, la sortie d'Adjar dans le tour de formation. Il n'a même pas pu prendre le départ d'un Grand Prix pour l'instant. Et après, d'autres pilotes pareil, et à quasiment sensiblement les mêmes sorties. Donc il y a un endroit que peut-être la direction de course à Melbourne va devoir retravailler sur le circuit. Mais c'était une course assez intéressante qui s'est principalement jouée dans les coups de poker tentés par les teams avec des passages au stand pendant la voiture de sécurité,
sur les choix de pneumatiques,
sur les choix de pneus, sur attention, il va pleuvoir dans un tour et demi, dans tel virage. On a vu des choses assez rigolotes, et au final, tous ceux qui ont tenté des coups sont pas allés jusqu'au bout parce que la pluie a calmé tout le monde.
C'est ça, la pluie n'a pas respecté les prévisions attendues. Le grand perdant, on n'a pas trouvé le grand gagnant forcément, mais le grand perdant c'est Oscar Piastri.
C'est Piastri qui fait la plupart de la course en deuxième. Alors les voitures de sécurité ont permis à Verstappen de tout le temps coller au duo de tête, mais les McLaren étaient quand même au-dessus du lot, tant en qualif qu'en course. Et Piastri, pour une raison inconnue, sort au même endroit que Norris, vraiment à une seconde d'intervalle, sauf que Norris arrive à rattraper la voiture. Et Piastri met le coup de volant qu'il ne faut pas et ruine sa course en finissant dans l'herbe, quasi embourbé.
Alors ce qui est beau, c'est qu'il se bat pour sortir de
là. Il sort en marche arrière, dernier, et il repart en course et il finit... je ne sais pas s'il finit dans les points.
Il finit 9e, je crois. 9e.
Ah oui, puisque les paris, les paris tentés dans les pneus par les différents lui ont...
Il finit 9e en doublant Hamilton dans le dernier tour.
C'est ça. C'était assez particulier. La pluie était attendue, mais qu'elle ait un tel impact sur la course, je ne suis pas sûr.
Bon, on l'a vu, il y a Ferrari qui a tenté un coup de poker et qui s'est retrouvé à un moment au gré de ces changements de pneumatiques au stand dans les 2-3 premières places.
C'est ça, pour ils sont deux ressortis pilotes. 9 et 10, voilà. Donc ça a été un mauvais...
Ils ont voulu continuer en pneu slick, pardon. Et voilà.
C'est ça, ça a été un mauvais calcul parce qu'il pleuvait beaucoup trop pour tenter ça. Et il n'y avait en plus que la partie vraiment, la trajectoire qui était sèche et tout le reste était détrempé. Plus à Melbourne, la particularité, c'est qu'il y a de l'herbe très très proche de la piste. Et si les pneus vont dans l'herbe, là c'est terminé. Parce qu'ils vont quand même à 300 à l'heure dans de l'herbe mouillée, c'est pas...
Oui, Jérôme Crapaty.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour Hajdar?
Alors dans son tour de formation, il sort de... Donc c'est un virage... qui après amène dans une courbe assez longue, mais pas particulièrement difficile. Et en fait, il a, de ce que j'ai compris, c'est au changement de rapport, ça a mis un coup d'accélération, ouais. Il perd l'adhérence. Ouais. Et une fois que la voiture est partie...
On voit à l'image qu'effectivement, il y a un à-coup et la voiture part...
Et on le présente comme un grand espoir.
Et on le présente comme un grand espoir. Alors, il y a d'autres pilotes, il y a même Alonso, dont la carrière n'est plus à présenter, qui a fait la même sortie, quasiment au même endroit, le même dégât sur la voiture. Et on l'a vu qu'il était vraiment dépité. Quoi,
effondré, quand il a interrogé, il attendait ce moment depuis tellement longtemps de faire ses premiers tours en F1.
Il était qualifié donc.
Il était qualifié. C'était, il était plutôt pas mal. Il loupe de très peu la Q1 dans la qualif. Et malheureusement, il a pas su ne serait-ce que prendre le départ. L'avantage, c'est que le prochain Grand Prix, c'est dans une semaine. Donc voilà. Il n'aura pas le temps de gamberger non plus. Sur sa sortie, puisque dès vendredi prochain, ils sont à Shanghai pour les essais.
Et là aussi, on avait une belle image, puisqu'on a vu Anthony Hamilton, oui. Le papa de Lewis Hamilton, venir le consoler dans le paddock, en lui tombant dessus presque tout de suite et en lui disant un certain nombre de mots assez longs, finalement.
C'est ça, quand on parlait d'espoir, c'est là qu'on voit qu'il y a de l'attente autour de lui, puisque donc, les autres rookies n'ont pas eu le père d'Anthony Hamilton de Lewis Hamilton qui allait les voir. Et ensuite, on a même le directeur de la Formule 1 qui est allé exprès dans le paddock de
Hadjar.
Racing Bulls pour aller voir Hadjar et le consoler après la course et lui dire on y va, mon garçon, c'est pas grave, ça arrive et des erreurs, t'en feras plein d'autres dans ta carrière.
Donc vous l'avez dit, on perçoit que les McLaren sont aux avant-postes en ce début de saison, mais il y a une bonne surprise aussi, c'est les deux Mercedes avec Russell notamment et Antonelli, oui. qui font 3 et 4.
Antonelli qui est un rookie lui aussi et qui a fait une bonne course et des bonnes qualifs également, donc à suivre pour le reste de la saison. On pouvait penser que Toto Wolff allait perdre ses cheveux d'avoir perdu Hamilton et peut-être que finalement ça va être moins pire que ce qu'il pensait.
Bon, eh bien on va suivre ça dès la semaine prochaine, vous l'avez dit, puisque ça sera le Grand Prix de Chine à Shanghai et donc on espère que les rookies vont un peu mieux se comporter.
C'est ce qu'on leur souhaite.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Messieurs, de retour sur Sportmidable, on va commenter les brèves de cette semaine et de ce week-end. On va commencer par du tennis avec le Masters 1000 d'Indian Wells qui a livré son verdict ce matin. Jack Draper, le Britannique, s'est imposé face à Holger Rune 6-2, 6-2. Un peu une surprise, Grégory Sierg? Non.
J'ai pas forcément suivi le...
Oui, l'Alcaraz éliminé.
Alcaraz éliminé en demi par Draper, justement, qui avait fait un très très gros match. Et Draper a été... vraiment, il a survolé ce tournoi du début à la fin.
Ah oui, j'étais surpris de l'élimination de l'Espagnol.
On sent Alcaraz quand même moins bien depuis le début de l'année. On l'a vu en difficulté sur l'Open d'Australie. On l'a vu un petit peu en difficulté aussi sur les tournois d'après. On s'attendait effectivement à ce que l'arrivée sur dur américain, où il est plutôt à l'aise, soit bénéfique, mais on voit qu'il est toujours un peu dans le dur. Voilà, il y a un match très décousu contre Draper.
C'est bien que ça change de tête aussi, hein. Tant mieux, hein, pour le tennis mondial.
Bah écoutez, on va voir, puisque ces deux Masters 1000 s'enchaînent, puisque dès le 19, donc cette semaine, à partir du 19 jusqu'au 30 mars, c'est le Masters 1000 de Miami, donc l'enchaînement des deux Masters 1000 américains au printemps. Donc on va voir si certains se reprennent, comme c'est le cas pour Alcaraz et Medvedev, alors qu'il ne faut pas non plus enterrer, hein, ils étaient demi-finalistes, ils ne sont pas éliminés au premier tour. Et puis des joueurs français, puisque là, ça a été un petit peu la déception côté français. On a eu Arthur Fils, quart de finaliste, éliminé par Medvedev. Mais on attendait mieux d'Hugo Humbert, on attendait mieux de Giovanni Mpetit-Péricard. Donc on espère aussi là, de meilleurs résultats sur le Masters 1000 de Miami. On va parler des dames aussi, puisque y a une jeune, j'ai envie de dire un ovni, qui arrive un petit peu là sur le circuit féminin. Elle s'appelle Mira Andreeva et elle avait été mise, ça avait été le coup de cœur, Jérôme Krapaty, vous concernant, il y a quelques semaines. Elle avait gagné le Masters 1000 de Dubaï. Et bien, elle vient de renouveler son bail à Indian Wells. Donc, puisqu'elle a battu en finale Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, et en demi-finale Iga Świątek, numéro 2 mondial. Comme ça, personne ne peut discuter. Elle a battu les deux premières en demi et en finale.
C'est qui son entraîneur?
Et son entraîneur s'appelle Conchita Martinez, donc une ancienne joueuse espagnole. Et visiblement, l'entente se passe à merveille, puisque là, Andreeva n'a que 17 ans, alors ce qui est assez fréquent sur le circuit féminin, mais en tout cas, pour l'instant, elle est en train de mettre tout le monde d'accord. Commentaire, Jérôme Krapaty.
Moi, ce qui m'impressionne chez cette joueuse, c'est qu'elle prend la balle très très tôt et on a l'impression que tout est naturel, spontané, fluide. Le tennis, quand on la regarde, il paraît vraiment très très facile, quoi. Et elle est vraiment comme si elle avait des prédispositions que d'autres joueuses n'ont pas, quoi.
Alors, c'est aussi le facteur.
Elle tape.
Ouais, ça tape très très fort. Ouais. Et il y a aussi le facteur confiance, puisqu'il rentre en ligne de compte de ce que vous évoquez. On voit que. Elle se pose pas de questions, vous le dites, elle frappe la balle très fort, très tôt. Et voilà, elle perd le premier set, elle ne doute pas aussi, elle perd le premier set contre Sabalenka 6-2, mais elle renverse la vapeur, elle se met pas à douter.
Donc elle a un mental assez solide.
Ce qui m'impressionne, c'est son mental, sa maturité et sa force pour gagner, quoi.
Ouais. Mais je pense que là, justement, le coaching d'avec Conchita Martinez, qui a été... qui a gagné un grand chelem, mais qui a été une joueuse plus de second plan malgré tout. On sent qu'il y a un énorme travail mental qui est fait sur le fait qu'il y a de la place aujourd'hui à prendre sur le circuit féminin. Świątek ne domine pas de la tête et des épaules. Sabalenka, qu'on pensait avoir pris le relais, non plus. Donc on voit que le circuit féminin peut être extrêmement ouvert et on va le suivre dès la semaine prochaine à Miami, puisqu'on retrouve tout le circuit WTA et ATP dès cette semaine pour ce Masters 1000 et ce WTA 1000. On va parler vélo maintenant, messieurs. Il y avait deux classiques, on va dire, de ce début de saison. Paris-Nice, avec une victoire finale de l'Américain Jorgensen pour la deuxième année consécutive. Donc là, on voit que cet Américain qui était un peu dans l'ombre commence à prendre de la place et se dit prêt à assumer une place de leader dans une grande équipe pour un grand tour. Donc est-ce qu'il peut aller chatouiller Pogacar, par exemple ?
Je pense qu'il peut aller le chatouiller. Hein. Les Américains, on sait toujours qu'ils ont une force d'entraînement sur le cyclisme. En espérant que ce soit propre. Hein. Là, je ne peux pas aller plus loin que ça. En espérant que ce soit propre. Mais... les Américains ont toujours une force au niveau de l'entraînement, avec des techniques et des méthodes d'entraînement nouvelles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Bon, on va le suivre lui aussi dans les semaines à venir avec les autres classiques qui vont arriver, Milan-San Remo notamment, Paris-Roubaix. Donc on va voir comment il se comporte sur ces terrains-là. Et puis il y avait également Tirreno-Adriatico, donc en Italie, et avec une victoire de l'Espagnol Juan Ayuso, un peu plus surprise, on va dire, mais là aussi un coureur confirmé malgré tout. Pas de commentaires, messieurs, sur la partie cyclisme. Je sens que la MotoGP va vous inspirer un petit peu plus. Donc on va terminer ces brèves avec de la MotoGP et Marc Marquez qui pour l'instant vraiment ne laisse que des miettes en ce début de saison à tout le monde. Grégory Cyr qui est deuxième course, deuxième victoire.
Le seul qui arrive à le suivre pour l'instant c'est son frère.
Voilà, Alex.
Et Pecco Bagnaia est relégué à chaque fois au pied du podium. Enfin,
c'est ça,
au pied du podium ou sur la dernière marche du podium. Donc ils paraissent assez imprenables. Et pour moi, ça fait un peu un parallèle avec la Formule 1, où ces dernières années, la Formule 1, c'était un peu une procession et on suit les pilotes de tête et personne n'arrive à les rattraper. Et là, sur les deux premiers Grand Prix, bah, c'est un peu la même chose, alors que d'habitude, en moto, il y a énormément de
bagarres,
de dépassements, ouais, de bagarres et de mouvements, et là, ils sont clairement très au-dessus du lot.
Ah, là, d'autant qu'il met tout le monde d'accord, parce qu'il gagne la course sprint à chaque fois, et il fait la pole à chaque fois. Ça. Donc, il fait le grand chelem sur les deux week-ends. Donc, pour l'instant, ultra-domination de Marc Marquez, vous l'avez dit, Bagnaia 4e, et on va quand même noter la belle 6e place ce week-end de Johan Zarco.
Oui, qui avait fait également 4e à la course sprint, donc plutôt un bon week-end,
voilà.
Un bon week-end pour lui.
Zarco qui espère revenir, qui se dit confiant pour revenir dans les 10 premiers régulièrement. Donc ça aussi, on va suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt nos coureurs français Zarco et Quartararo dans les prochaines semaines. Messieurs, ça va être l'heure de vos coups de cœur. Jérôme Crapaty, on va commencer par vous. Votre coup de cœur de cette semaine.
Alors moi, j'en ai deux. J'ai tout d'abord Yoram Wefana, qui a fait un match extraordinaire et surtout un tournoi exceptionnel. Et voilà, et c'est un garçon qui monte en puissance et qui est vraiment sur la pente de la réussite, et on lui souhaite une longue, longue, longue et belle carrière. Et le deuxième, c'est un joueur que je trouve aussi assez extraordinaire, qui joue avec Bordeaux, qui s'appelle Louis Bielbiaré. Alors, dans son club, on le surnomme Bibip. Pourquoi? Parce qu'il a été chronométré à 37,1 km/h. Et il a marqué donc 8 essais, il a le record du tournoi. Et c'est un joueur qui incarne pour moi le renouveau du rugby français, et qui a une foulée extraordinaire, et une vitesse, et une vélocité qui est magnifique à regarder. Et qu'est-ce que c'est beau de voir ces belles envolées avec des joueur aussi véloce.
Alors, on précisera qu'il n'a que 21 ans, donc il est extrêmement jeune, et qu'il a marqué sur chacun des 5 matchs de l'équipe de France cette année sur le tournoi des 6 nations.
Tout juste, il aura 22 ans au mois de juin. Voilà.
François Lumarie, votre coup de cœur?
Bien, moi, c'est encore pour un plus jeune. C'est pour Doué du Paris Saint-Germain sur son dernier penalty. Il a 19 ans, avec un sang-froid, il tire le dernier. Et le marque. Et ça, c'est un coup de cœur parce que, en fait, nous avons des Calédoniens qui vont aller disputer la Coupe du Monde des 20 ans au Chili. Et on risque de jouer contre Doué, contre ces garçons-là, quoi. Si c'est en équipe de France et qu'on est dans le groupe de l'équipe de France. Donc, c'est le petit coup de cœur, c'est pour Doué.
Et on précisera qu'il avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il avait dit à Luis Enrique, il a montré sa main, je veux tirer le 5e. Voilà. Donc prêt à assumer ses responsabilités déjà.
Force mentale incroyable.
Ça montre la détermination.
Et tu joues le dernier penalty, l'élimination. Hein. Donc c'est le coup de cœur.
Bon, eh bien, et Grégory Sirk, votre coup de cœur pour terminer cette émission.
Je m'associe tout d'abord au coup de cœur sur Moefana, un jeune de chez nous qui a réussi au plus haut niveau. Et également un coup de cœur en forme d'encouragement pour l'association du sport automobile de Nouvelle-Calédonie, dont le bureau directeur a été entièrement renouvelé et qui fait la place aux jeunes maintenant, et qui est en train de préparer sa première saison en tant que bureau renouvelé après tout ce qu'on a connu l'an dernier. Donc un encouragement pour la saison à venir.
Voilà, on sait à quel point le monde sportif et le monde du bénévolat vit des heures difficiles aujourd'hui, et donc on leur souhaite une longue vie et plein d'encouragement pour les projets qu'ils vont mener.
C'est ça.
Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.